Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes le 8 janvier 2018 déjà. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Un retour pour nous à cette émission du lundi. Mon nom est Claude Blas, bien installé pour vous l'offrir cette bonne émission et surtout de bonne humeur. Nous allons naturellement retrouver nos collaborateurs ce matin qui ont travaillé très fort afin de vous faire la lecture d'articles. Et on va retrouver tout de suite Franceline Nieuviard. Oui, comment allez-vous? Passez un bon temps des fêtes?
Oui, absolument, oui, oui. Et puis, bien contente de revenir ici ce matin.
Tout à fait, ça fait du bien.
Oui.
Alors, de quoi vous allez nous parler ce matin?
Mes deux sujets d'aujourd'hui sont le premier tiré du journal L'Itinéraire. C'est une entrevue de Jean Baudouin, qui est un architecte spécialisé dans les espaces permanents et éphémères, et qui parle à propos de Montréal. Le titre de l'article, c'est « Montréal, ville des possibles ». Et c'est une entrevue donc, de Jean Baudouin avec Alexandra Guélil du journal L'Itinéraire. Et puis, le deuxième sujet porte sur... en début d'année, on fait souvent du tri des choses de l'année passée. Et donc, le titre, c'est « Je garde ou je jette ». C'est à propos des documents. Et c'est Didier Berthe qui écrit cela dans la revue du Bel Âge de novembre 2017.
Ah, j'ai hâte d'entendre. J'étais justement en train d'en...
Ben oui, c'est ça. On est tous, je pense, un peu plus ou moins en train de faire ça.
Tout à fait. Alors, celui qu'on entend rire, c'est Roger.
Oui, bonjour.
Roger Roy,
bonjour,
comment allez-vous?
Oui, très bien, merci.
Passez un bon temps des fêtes, vous aussi?
Oui, un peu d'hibernation. Ah, j'en ai sorti, là.
On en a tous subi de l'hibernation, hein. Alors, bon. Roger, de quoi vous allez nous parler?
Alors, moi, je vous parle de deux textes de Noémie Mercier. Noémie Mercier, elle écrit dans l'actualité, elle a une chronique régulière qui s'appelle « Des gars et des filles ». Elle a écrit un texte qui s'appelle « Vas-y, t'es capable ». Ça, c'est pour les femmes en Occident, disons, dans les pays développés. Ah. Mais aussi, elle a une autre rubrique où elle parle des droits acquis par les femmes en 2017.
Ah.
Alors là, c'est dans le monde.
Ah, et voilà.
Alors, c'est un peu, il y a des variations. Et évidemment, pourquoi pleure-t-on? Question fondamentale.
J'ai bien hâte d'entendre. Et de mon côté, je vais vous parler de protéines. Vous saviez que les protéines, c'est très bon pour la santé. Et je vais vous parler aussi de tension artérielle. Peut-être qu'on a besoin d'en entendre parler tout de suite après ces fêtes qu'on vient tout juste de passer et manger énormément. Donc, je vais vous parler de ça. Alors, on vous revient tout de suite avec Franceline. Alors, on retrouve tout de suite Franceline qui nous parle de Montréal, oui?
Oui, Montréal, ville des possibles, c'est le titre de l'article écrit par Alexandra Guélil à propos d'une entrevue qu'elle a faite avec Jean Baudouin. Et je le trouvais assez d'actualité quand on pense qu'aujourd'hui vont commencer sur la rue Sainte-Catherine-Ouest des travaux énormes qui vont éventrer toute la rue. Et donc, Jean Baudouin, qui est un architecte spécialisé dans les espaces permanents et éphémères, a quelques idées là-dessus. Voilà. Alors, Alexandra pose la première question. Montréal a-t-elle de quoi nous rendre heureux avec son architecture, c'est-à-dire l'environnement, les bâtiments, l'aménagement des espaces publics? Il dit ceci. On a encore immensément de travail à faire. D'un point de vue d'architecture, ce qui rend Montréal intéressante, parce que c'est une ville des possibles, contrairement aux grandes villes d'Europe qui sont figées. En travaillant sur des projets en Chine ou en Europe, si l'on me demande le choix d'habiter une ville du monde, je choisirai Montréal à cause de son ambiance et de sa densité. Cette ville se définit par un paysage. Cette ville se définit par la transformation. Si on aime la vie en général, on remarque que le paysage est changeant. On est une ville nordique qui doit s'assumer. D'ailleurs, dit-il, ma saison préférée, c'est l'automne. On est dans le rouge et le jaune. C'est la saison la plus magique. La mutation est continuelle. Il commence à avoir à Montréal des signes de ces changements, les festivals, pas dans l'excès du 375e, mais bien plus dans le quotidien. C'est quand même magique d'être l'une des seules villes au monde où l'on a pu fermer des stations-service pour créer un espace autre. On a donc très peu de choses à envier à Copenhague, dit Alexandra. Il répond, on a encore beaucoup à envier à Copenhague. Il s'agit d'ailleurs de ma ville de référence. Son niveau de maturité est tout autre, ne serait-ce que lorsqu'on observe l'attitude des citoyens. On connaît Copenhague notamment parce qu'elle est devenue le paradis du vélo. Or, à Montréal, je me suis déjà fait siffler par d'autres cyclistes parce que, entre guillemets, je faisais le Montréalais en tournant à un feu rouge alors que je pensais avoir le droit de le faire. Ça a été un choc et révélateur d'une attitude citoyenne qui existe à Copenhague que l'on n'a pas encore atteint ici. Il y a aussi toute la notion de l'espace public et de l'espace privé à prendre en compte. Un trottoir est un espace public. Voir le monde qui jette un mégot de cigarette ou un vieux papier à terre me rend fou. Pour moi, c'est comme si nous faisions pareil dans notre salon. On a encore beaucoup de chemin à faire pour respecter cet espace collectif. Quand on parle d'être heureux dans sa ville, c'est aussi être en mesure de partager un espace avec d'autres. Au moment du résultat des dernières élections municipales, c'était la première fois que je me promenais dans ma ville en me disant que ce que je voyais pour elle semblait être synchronisé avec ce qui semblait être l'intention des élus qui me représentent. Ils pensent en effet qu'une des pierres d'assises du programme de Projet Montréal est la ville de proximité. Ils croient qu'une des choses que cette administration fera bien est liée au partage des espaces publics. Il dit « Il ne s'agit pas tant d'empêcher les voitures d'exister, mais plutôt de réduire leur impact dans l'environnement ». Quand on valorise la ville de proximité, c'est aussi responsabiliser chaque citoyen en leur expliquant que chacun des espaces leur appartient un peu, d'où l'idée d'en prendre soin. Vous avez travaillé sur le projet de la terrasse rouge sur la rue Saint-Denis. En quoi est-ce un type de projet important pour la revitalisation d'une ville, bien qu'il soit relativement coûteux ? Il dit « Quand on parle d'aménagement, parfois, on en parle trop de façon pérenne, alors que le moment de chantier ou de transformation d'un espace est un moment où il est possible de faire disparaître des commerçants ou changer des attitudes de vie des résidents. Le but de l'aménagement transitoire est d'essayer d'assurer une qualité de vie aux citoyens au moment d'un chantier, en ouvrant des possibles sur la suite des choses. Le projet de la terrasse rouge était une chance de réoccuper cet espace. La question du coût revient régulièrement, mais il faut tout de même se rappeler qu'à Montréal, on enlève les bancs publics pour déneiger. Cela signifie que l'on ne permet plus aux citoyens de s'arrêter l'hiver. Montréal se transforme tout le temps. Les mutations saisonnières, les mutations causées par les changements nous intéressent beaucoup, surtout lorsqu'on est capable de prendre en compte les besoins du citoyen. Elle dit « Parlons des chantiers. Montréal est connu pour ses cônes oranges en raison de leur omniprésence. Comment pourrait-on aménager autrement cette ville pendant les travaux ? Actuellement, on met des cônes oranges partout. En plus d'être mal entretenus, ils sont mal positionnés. Les automobilistes font des circuits incompréhensibles et les piétons sont souvent oubliés. Prenons l'exemple de Nantes en France, où une attention particulière est portée par les élus et les entreprises sur la qualité de leurs interventions pour en limiter l'impact. » Ici, il faut que l'on s'y mette. Je sais qu'il s'agit d'un projet de discussion qui est dans les cartons, mais à un moment donné, il faut s'en occuper réellement. On est capable d'instaurer des règles pour faire cela correctement, en faisant en sorte que les citoyens aient une qualité de vie acceptable malgré la présence du chantier. C'est un équilibre à atteindre. Qu'est-ce que l'esthétique dans votre travail au quotidien ? Étrangement, il s'agit d'un sujet tabou dans la communauté du design. On dirait qu'avec le temps, les approches favorisées sont devenues plus rationnelles qu'esthétiques. Quelqu'un qui explique une prise de décision par la beauté sera souvent dénigré, sauf s'il s'agit d'une célébrité qui peut prendre de telles positions. Ce qui est étrange, c'est que c'est contrasté avec les perceptions que les citoyens ont de notre travail. Il y a un clivage entre les ateliers du design et la réalité du milieu au niveau de la société. Alors des architectes, on travaille sur la politique québécoise de l'architecture, c'est-à-dire que l'on travaille au niveau des ministères pour faire reconnaître que la qualité des environnements bâtis est essentielle pour les citoyens et donc que cela doit faire partie des prises de décision. Dans le principe de qualité, on respecte l'environnement, les cycles de vie, tout en quantifiant l'impact que nous avons sur le territoire. À la question de déterminer ce qui est beau, certains diront que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais je pense que tous les jours, dans un atelier de design, il doit y avoir des discussions sur l'harmonie entre deux choses et sur ce qui doit être la dimension d'un lieu dans lequel on se sent bien. Dans mon travail, dit-il, j'aime défendre l'expérience du citoyen. Si la beauté est un sujet tabou dans mon domaine, il faut avouer que l'on n'arrive pas à faire quelque chose de beau, on ne laisse pas le projet sortir de notre atelier. Après, il peut arriver que le facteur de la beauté soit personnel. Par exemple, dans le cas du projet de la terrasse rouge, nous avions considéré qu'il ne s'agissait pas tant de peindre en rouge un espace donné, mais plutôt de reconquérir un espace pendant un temps, afin que les citoyens en aient une autre expérience. Alors, que va-t-il advenir à propos de la rue Sainte-Catherine à suivre?
Il faut faire confiance à notre nouvelle mairesse.
Voilà, Plante, absolument.
Et puis on verra ce que ça donnera, mais c'est un chantier assez important quand
absolument,
même.
Absolument, absolument.
On parle d'infrastructures qui datent d'une centaine d'années à peu
absolument.
Près.
Absolument. Alors, c'était l'article dans le journal Itinéraire du 15 décembre 2017.
Merci encore. Beaucoup, Franceline. Alors, de retour, j'aurais tendance à dire à Roger, vas-y, t'es capable.
Oui, c'est ça. C'est une exhortation qui avait été faite par Lise Thériault aux femmes. Mm-hmm. On en parle dans le texte. C'est Noémie Mercier qui signe deux textes consacrés aux femmes. Uh-huh. Dans l'actualité du mois de décembre, je vous lis des extraits de ce texte. Donc, le premier, vas-y, t'es capable. C'est un fait bien étayé par la recherche en sciences sociales. Les hommes ont tendance à surévaluer leurs compétences. Les femmes à se percevoir plus modestement, voire à sous-estimer leurs capacités. Selon une certaine vision de l'émancipation féminine, cette timidité est l'un des principaux freins à leur plein épanouissement dans la société. Ce serait par manque de confiance en elles que les femmes hésitent à se lancer en politique, à se proposer pour un poste de cadre, à défendre leurs idées en réunion, à vanter leurs propres mérites auprès de clients potentiels ou de futurs patrons. Si seulement les femmes cessaient de douter d'elles-mêmes, disent les tenants de cette vision, elles oseraient enfin rivaliser sur tous les terrains et les inégalités s'évanouiraient. Un féminisme de type « vas-y, t'es capable », pour paraphraser l'ex-ministre québécoise de la condition féminine, Lise Thériault, qui fait de la lutte contre les inégalités une question de volonté personnelle. Et si le problème, ce n'était pas le manque d'assurance des femmes, mais l'excès de confiance des hommes? Une équipe de chercheurs des États-Unis et d'Espagne a publié en 2012 les résultats d'une expérience fascinante dans le Journal of Economic Behavior and Organization. Son étude met en lumière à quel point la confiance généreuse des hommes constitue un avantage qui leur facilite l'accès au pouvoir. Ses travaux révèlent aussi que les organisations en paient le prix. Lorsque les chefs sont choisis sur la base de leur estime d'eux-mêmes et non selon les critères des critères objectifs, le groupe se prive de ses leaders les plus efficaces, selon cette étude. Une saine confiance en soi peut être un formidable moteur pour entreprendre des initiatives casse-gueule qui nous amènent à nous dépasser ou pour mobiliser des troupes dans une aventure périlleuse. Mais ce trait de caractère peut aussi engendrer des dérives lorsqu'il s'accompagne d'un sentiment d'invulnérabilité ou d'une incapacité de remettre en question ses certitudes, par exemple. Des spécialistes de diverses disciplines ont établi des liens entre l'excès de confiance et les bulles spéculatives sur les marchés financiers, l'éclatement de conflits armés, la multiplication des faillites d'entreprises et même avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Si on veut favoriser l'égalité des chances dans la sphère professionnelle, ce ne sont ni la modestie féminine, ni l'assurance masculine qu'il faut corriger, mais les pratiques en matière d'embauche et de promotion. Au lieu de chercher à rééduquer les femmes dans l'espoir qu'elles fracassent le plafond de verre à grands coups de « je suis capable », les organisations peuvent se doter de méthodes plus objectives et systématiques pour évaluer leurs employés, indépendamment de l'estime plus ou moins haute que ces employés se portent. C'est l'évidence même. Pourtant, encore aujourd'hui, dans bien des entreprises, on confond la confiance en soi et le mérite. On accorde des augmentations de salaire uniquement à ceux qui ont le culot de les demander. On attend que les gens se portent volontaires pour des postes de responsabilité. On s'appuie sur les auto-évaluations des employés pour juger de leur rendement et de leur rémunération. À ces jeux-là, les femmes partent forcément avec une longueur de retard. C'est Noémie Mercier qui parle. Et toujours au sujet des femmes, et là, dans plusieurs cas, on est pas mal loin des préoccupations qu'on a vues dans ce texte-là.
Ouais.
Allez-y. Vas-y, t'es capable. 10 droits acquis par les femmes en 2017.
On peut le répéter encore aux femmes. Vas-y, t'es capable.
Oui, c'est ça, c'est sûr. Hein?
Parce qu'elles sont capables, c'est sûr.
En Arabie Saoudite, ça, tout le monde a été au courant de ça. Là, au mois de juin, là, les femmes vont pouvoir avoir leur permis de conduire, pouvoir conduire leur voiture. Et elles vont même avoir accès à des cours d'éducation physique dans les écoles publiques. Imaginez. Au Népal, bannir les femmes de leur foyer pendant leurs règles parce qu'elles sont impures est maintenant criminel au Népal. La coutume du chopadi expose les femmes à toutes sortes de risques, y compris celui de mourir de froid ou d'être mordues par un serpent dans les abris de fortune où elles sont confinées pendant cet exil. En Tunisie, au Liban, en Jordanie, dans divers coins du monde, des lois permettent aux agresseurs sexuels d'échapper à la justice s'ils épousent leurs victimes. En vertu des codes traditionnels de ces cultures, ces mariages réparent le déshonneur qu'un viol attire à la victime et à sa famille. L'été dernier, ces trois pays, Tunisie, Liban et Jordanie, ont aboli cette disposition de leur code pénal. Ça semble un peu aller de soi, mais... En Inde, maintenant, trois mots. Talak, talak, talak. Je te répudie, je te répudie, je te répudie. C'est tout ce qu'un Indien de confession musulmane avait besoin de dire pour divorcer de sa femme instantanément, la laissant souvent sans ressources. Au mois d'août, la Cour suprême de l'Inde a interdit cette coutume, déjà illégale dans plusieurs pays, mais toujours pratiquée en Arabie saoudite. Au Chili, le Chili faisait partie de la poignée de pays qui interdisent l'avortement en toutes circonstances. Depuis l'adoption d'une loi, au mois d'août, les Chiliennes sont autorisées à interrompre leur grossesse, mais seulement si leur vie est en danger, si le fœtus n'est pas viable ou en cas de viol. Parlant toujours d'avortement au Canada, presque 30 ans après que la Cour suprême du Canada eut décriminalisé l'avortement, les Princes-Édouardiennes peuvent enfin choisir de se faire avorter sur leur île. La première clinique y a ouvert ses portes en février. C'était la dernière province au pays où ce service n'était pas offert. Aux États-Unis maintenant, de nombreux États américains n'imposent pas d'âge minimum pour le mariage ou autorisent les unions entre adolescents si les parents y consentent. Ainsi, il arrive que des jeunes filles subissent des pressions pour se marier ou qu'elles soient forcées de le faire par des parents abusifs. Deux États ont légiféré cette année pour éliminer les mariages d'enfants, le Texas et New York. Au Kirghizistan, les femmes battues du Kirghizistan ont désormais moins à craindre pour leur vie. Les personnes reconnues coupables de violences conjugales n'ont plus le droit de posséder un permis de port d'armes. La réforme ratifiée en avril facilite aussi l'accès des victimes à des refuges ainsi qu'à de l'aide juridique et psychologique. Alors voilà, des droits acquis en 2017 par les femmes. Mais c'est quand même assez élémentaire.
C'est élémentaire, mais bon, OK. Enfin, il faut regarder les côtés positifs. Hein?
Oui.
Quand même, on s'en va à la pause, on vous revient tout de suite après.
Ça va aller vite, garde ton manteau sur le dos. Pour dire la vérité, ça fait pas mal longtemps que j'y ai pas pensé à toi. Fait que rappelle-moi donc comment que ça se fait que je te connais. Ah oui, t'es l'ami d'un ami d'une amie, à demi-ami d'une amie de Mimi, que t'as mis dans le lit d'une mamie, ami, ami. Une petite pensée pour toi, peut-être, les amis, c'est comme le vin, quand ça donne mal à la tête, c'est parce que ça vaut rien. Sincèrement, t'es le genre de gars qui comprend vite, peut-être, mais ça prend toujours un peu de temps. Sont bons tes arguments, t'es l'Édimbourg, la mine, t'as la limite, un jour vont valoir cher au milieu du désert. T'es bien étonnasse, qualité que j'aime, c'est signe comme quoi t'as bien de la classe, mais comme on dit, rien que la troisième. Tu prends le mot non, et non, et non, tu lis les lettres à travers la langue. Ça va toujours, non, non. En fait, t'es pas un problème, t'es gros, t'es fort, mais c'est pas grave, tu vas sortir quand même, ça me prendra deux voyages. Quand je baisse les bras pour pogner mon gun, fait que bienvenue, si tu t'en vas, salut, bye bye, dégage.com. Grand service à société, que je te dis mon ami, je te verrai bien comme guitariste dans le métro de Matagami.
couleurs exagèrent. Un petit quelque part, ta belle visite, elle me fera toujours plaisir. Pas quand t'arrives, mais quand tu pars.
L'hospitalité telle que revue par Richard Desjardins, la pièce s'intitule La Grande Visite, cet extrait de son album de 2003, Kanasuta.
Merci beaucoup, j'avais dit la pause, mais c'était la pause musicale. Hein. Je me corrige et c'est pourquoi que je vais vous lire un article sur les protéines. Peut-être que j'en ai besoin, hein, finalement, à ce retour des fêtes. Alors, c'est un article que j'ai retrouvé dans le magazine Costco. Ça s'appelle, c'est tout simplement titré « La puissance des protéines » et c'est un papier de Christine Kirkpatrick. Et c'est très intéressant comme article et je commence tout de suite. « Les protéines en poudre sont aujourd'hui largement consommées par les Canadiens, dit-on. Cependant, nombreux sont ceux qui se demandent encore quelle est la meilleure protéine pour leurs besoins. De combien de grammes de protéines a-t-on réellement besoin quotidiennement? » Je vous pose la question. Les protéines aident-elles à perdre du poids ou à surpasser ses rêves de musculation? Alors, c'est des questions qu'on se pose dans l'article. Même si les besoins en protéines varient selon l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique et l'état de santé général, en ajouter un peu à son alimentation peut procurer d'énormes avantages, notamment pour la perte de poids. Selon une étude réalisée en 2015 à l'Université Tufts et publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, les repas comprenant des aliments à faible indice glycémique, qu'on appelle riches en protéines, sont associés à une perte de poids plus importante qu'avec un régime comportant des aliments à indice glycémique élevé, donc les fameux glucides et les sucres raffinés, et tout ça d'après une étude publiée dans l'International Journal of Obesity. Et on dit que l'ajout de 35 grammes de protéines au petit déjeuner empêche la prise de poids, réduit l'appétit et stabilise le taux de glucose. Quand même assez important. Les protéines aident également les diabétiques. Une étude publiée en 2014 révèle que la consommation de protéines de petit lait avant un repas à indice glycémique élevé est associé à une réduction des pics de glycémie et une meilleure régulation de l'insuline. Selon une étude de Science Daily, un apport supérieur en protéines est associé à une réduction des fractures de la hanche chez les personnes âgées. Il est toujours bon d'obtenir des protéines du poulet, du poisson, des noix et des légumineuses, mais les poudres sont plus pratiques. L'idéal, c'est de choisir l'option d'aliments complets dont la liste d'ingrédients est la plus courte et d'éviter les ingrédients imprononçables ainsi que les arômes, édulcorants entre autres et colorants artificiels. Il y a des protéines en poudre pour tous les besoins. Ce qui suit aidera à choisir le meilleur produit. Quand on veut faire de la récupération après l'exercice, donc, une boisson faite de protéines laitières de haute qualité et d'eau de coco riche en électrolytes donne de l'énergie et remplace les électrolytes perdus. D'après un rapport publié en 2012 par Science Daily, l'eau de coco est excellente après un exercice léger. Les protéines laitières prises après l'exercice peuvent aussi accroître la masse musculaire. Si on parle maintenant de parents surmenés, on dit que la pire chose à prendre pour les parents fatigués est une boisson sucrée, car elle entraîne une fatigue intense en après-midi. Il vaut mieux choisir un repas sur le pouce, qui offre juste assez de protéines pour terminer la journée. Les parents ont aussi besoin d'une solution rapide et portable. Une boisson fouettée, hypocalorique, préfabriquée entre autres, riche en protéines végétales et ne contenant aucun édulcorant artificiel, est un choix judicieux et très, très savoureux. Les athlètes d'endurance, maintenant, ça prend une boisson fouettée à base de protéines de petit lait. C'est probablement la meilleure solution à forte teneur nutritive pour l'athlète qui cherche un carburant facile à digérer. Et les aînés? Qui dit vieillissement, dit perte de la masse musculaire et augmentation des besoins en protéines. Un apport insuffisant pourrait entraîner un déficit immunitaire et des retards de guérison. Selon une étude canadienne réalisée en 2017 et publiée dans Frontier in Nutrition, les quantités de protéines recommandées aux adultes seraient trop faibles pour les aînés. D'après une autre étude menée en 2017 par l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, la répartition des protéines entre les repas aurait des bienfaits pour les aînés. Et finalement, côté perte de poids, les personnes au régime gagnent à prendre des protéines végétales tirées de pois, du riz brun ou chanvre, et ça le matin. D'après une étude présentée au Congrès annuel de l'obésité société en 2013, l'ajout de protéines au déjeuner apaiserait l'appétit et favoriserait la perte de poids. Selon d'autres études, un régime riche en protéines améliorerait le sommeil et contribuerait au maintien de la masse maigre. Alors voilà, c'est un article de Christine Kirkpatrick que vous allez retrouver dans le magazine Costco. Et ça s'appelle tout simplement « La puissance des protéines ». Alors, on y va avec une petite nouvelle brève, Roger.
Oui, un curé italien a trouvé un moyen original de ramener ses ouailles à l'église. Il distribue des cartes de fidélité. Désormais, tout adulte qui possède cette carte et qui assiste à la messe jusqu'à la fin a droit à un verre de prosecco, des croustilles et des retailles d'hosties. La carte de fidélité, estime le père Gianfranco Formenton, rappelle aux paroissiens que la foi est un engagement. C'est un peu comme au IGA, on vous demande si vous avez votre carte de fidélité. Votre carte Hermès. Avez-vous votre carte Hermès? Quand les paroissiens arrivent, le curé est à la porte et demande, avez-vous votre carte fidélité?
Votre carte... Ça évoque des petites étampes, c'est ça? OK. Alors moi, j'en ai une. Si on dit qu'un médicament contre l'acné freinerait le début de la sclérose en plaques, imaginez. Et c'est une expérience conduite par l'Université de Calgary au Canada a révélé que la minoglycine, un molécule antiagnétique, peut ralentir la sclérose en plaques chez des patients qui en ont récemment éprouvé les premiers symptômes imaginés. Alors, on s'en va après la pause. Voilà, la vraie pause. Hein? Alors, on vous retrouve en deuxième partie d'émission. À bientôt.
Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de leur amour plus bleu que le ciel autour. Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit, le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que
d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
Bien sûr, Francis Cabrel avec cette pièce extraite de l'album Les Murs de Poussière, pièce dont on souffle les 41 bougies cette année, pièce qui a déjà 41 ans, une pièce de 1977, on aura reconnu Petite Marie.
Et toujours d'actualité, hein?
C'est absolument.
Ouais. Alors merci, on retourne avec Franceline qui dit « Je garde ou je jette ».
Oui, point d'interrogation. Effectivement, doit-on garder précieusement tel vieux document ou peut-on faire de la place et s'en débarrasser? C'est jamais évident de répondre à cette question et donc j'ai trouvé dans la revue du Bel Âge un tableau récapitulatif qui fait le point et qui a été écrit par Didier Berthe. Alors il va y avoir, ça va être un peu une liste, hein, une énumération de choses, mais bon, ça peut quand même quelquefois nous faire « Ah oui, c'est vrai ça, bon, répondre à nos questions ». Alors, je garde ou je jette. Pendant 6 mois, il faut garder. Les factures peu coûteuses de réparation d'appareils électroménagers ou domestiques. Si ces factures sont coûteuses, on dira qu'il faut les mettre dans toute la durée de la possession de l'appareil hein, pour pouvoir éventuellement revenir chez le commerçant. Aussi 6 mois, les factures peu coûteuses d'une réparation d'une auto, une moto. Si les factures sont coûteuses, on garde aussi toute la durée du possession de véhicule. Les relevés de transactions de guichets automatiques, une fois qu'on les a vérifiés, on peut les jeter. Les relevés de cartes de crédit, là aussi, on les garde 6 mois, mais on peut aussi, une fois vérifiés, on peut les jeter. Je ne sais pas si vous savez, mais à propos des factures d'électricité, Hydro-Québec dispose de 6 mois maximum pour corriger une facture erronée si cette correction est au désavantage du client. Donc au bout de 6 mois, il n'y a plus de correction avec Hydro-Québec. Alors maintenant, 3 ans. Qu'est-ce qu'on doit garder pendant 3 ans? Les relevés de comptes de banque, les relevés de REER, de CELI, de FER, les reçus de loyer, les reçus de taxes municipales, scolaires ou d'eau. Donc tout ça pendant 3 ans. Les factures d'électricité, de gaz ou de mazout. Les factures des soins de santé et d'honoraires professionnels. Les factures de téléphone résidentiel et cellulaire. Les factures d'accès Internet. Les factures de télévision par câble ou satellite. À propos du téléphone et d'Internet, on dit que les fournisseurs de ces services disposent de 3 ans pour récupérer des montants qu'ils auraient omis de vous facturer. Donc voilà, 3 ans pour ces documents-là. Maintenant, 7 ans. Les déclarations de revenus et les justificatifs de ces déclarations. Les relevés de versement d'acompte provisionnel. Les déclarations de TPS et de TVQ. Les correspondances avec l'administration fiscale, les talons de paye, les talons de prestation d'assurance emploi, les factures de frais de scolarité, les factures de services et de loisirs, les titres de transport hebdomadaires mensuels ou annuels, les factures et les justificatifs des frais de santé, les factures d'honoraires professionnels et le contrat de vente d'une maison ou d'un terrain et tout document qui s'y rattache. Et donc, à propos des impôts, des justificatifs d'impôts, tous les documents reliés à vos déclarations de revenus doivent être conservés 6 ans après l'année concernée, donc soit 7 ans. Mais en cas de fraude, le fisc pourra revenir encore davantage en arrière.
C'est bon ça.
Oui. Alors, pendant les documents qu'on doit garder toute la durée de possession, par exemple, les documents de prêt jusqu'au remboursement total du prêt hypothécaire, la quittance de prêt hypothécaire tant qu'on est propriétaire du bien immobilier, les rapports d'inspection de votre logement pour éventuellement exercer la garantie de vis cachée, les factures coûteuses de réparation et d'entretien, le bail de votre logement, le contrat d'achat d'une maison ou d'un terrain, les titres de propriété, le contrat d'achat d'un véhicule ou d'une motocyclette, la facture et le certificat de garantie d'un appareil électrique, la facture et le certificat de garantie d'un appareil électroménager, la facture et le certificat de garantie de tout bien coûteux, les factures et les états de compte d'un bien payé avec une carte de crédit, les certificats de garantie spécifiques comme le traitement anti-rouille, les pneus, les polices d'assurance vie, les polices contre l'incendie et le vol, les polices de responsabilité civile tant que ces polices d'assurance sont valides et jusqu'au règlement d'une demande d'indemnisation, et les certificats de dépôt à terme, de REER, de placement ou d'obligation d'épargne. Alors, pendant toute la durée de la possession, à propos des cartes cadeaux, vous savez maintenant qu'un commerçant n'a pas le droit d'indiquer sur une date d'expiration sur une carte cadeau prépayée. Ne jetez donc pas une carte cadeau que vous n'avez pas encore utilisée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit garder à vie? Alors, le certificat de naissance ou de citoyenneté, le carnet de santé, les diplômes et les certificats d'études, le contrat de mariage, d'union civile ou d'union de fait, le jugement de séparation ou de divorce, le testament, le mandat en cas d'inaptitude et les procurations, et ce document-là dans un lieu facile d'accès et non dans un coffre verrouillé que les gens ne peuvent pas trouver s'il nous arrive ce problème de décès. Les actes de donation, le certificat de décès d'un proche et l'inventaire de vos biens. À propos de l'inventaire des biens, c'est une liste qu'il faudrait faire. C'est une liste qui doit être accompagnée de factures et de photos de tous les biens qui ont de la valeur et qu'on possède, et parce que c'est vraiment utile en cas de sinistre pour prouver la valeur à l'assureur. Elle est aussi utile en cas de séparation. Alors, on dit que c'est pareil pour le numérique. Ces délais minimaux valent autant pour les documents sur papier que pour les documents numériques. S'ils sont sur support numérique, vous devez vous assurer de les classer soigneusement, de les sauvegarder sur un disque dur externe ou dans le nuage, genre Dropbox, Google Drive, etc. Et aussi, n'oubliez pas, quand on jette, il faut veiller à utiliser une déchiqueteuse pour détruire définitivement les documents dont vous vous débarrassez. Les voleurs d'identité apprécieraient trop de trouver des documents lisibles dans votre poubelle ou dans votre bac de recyclage. Oui, c'est effectivement, il faut y penser parce que...
Ouais.
Voilà, alors donc c'était « Je garde ou je jette ». Eh bien voilà, on va pouvoir faire notre ménage plus facilement maintenant.
Ah ben, j'espère que vous avez pris des notes parce que c'est vrai que c'est vraiment
non,
utile.
Non, mais ça ouais. donne quand même, je veux dire, ça rappelle, mais je crois ouais. qu'on est un peu conscient quand même de ces ouais. éléments-là, je trouve.
Tout à fait. Merci voilà. Franceline. Alors, Roger, j'ai bien hâte de t'entendre parce que moi, j'ai envie de pleurer. Je pense que j'ai jeté certains documents que Franceline disait de l'autre
côté. Oui, je suis en train d'y réfléchir. Là.
Ouais.
C'est dans quel mois, ça, c'est publié? Là? Novembre?
La revue du Bel Âge, novembre 2017.
Novembre 2017. Pourquoi pleure-t-on maintenant? Par Mandy Oaklander. Les scientifiques ne savent pas tout des larmes, pas plus qu'ils ne s'entendent sur les raisons qui nous font pleurer. Nous pleurons parfois par réflexe à cause d'une douleur ou d'une irritation, mais nous sommes les seules créatures à le faire pour des raisons sentimentales. Un petit peu d'histoire pour commencer. Des siècles durant, on a pensé que les larmes naissaient dans le cœur. Au XVIIe siècle, on supposait que les émotions, et notamment l'amour, faisaient monter la température du muscle cardiaque qui se mettait alors à produire de la vapeur d'eau pour se refroidir. Cette vapeur s'élevait jusqu'à la tête et se condensait dans les yeux pour se transformer en larmes. En 1662, un scientifique danois, Niels Stensen, a fini par découvrir que la glande lacrymale constitue le véritable point de départ de la production des larmes. Dès lors, les scientifiques ont commencé à s'intéresser de près aux avantages que pourrait présenter ce fluide jaillissant des yeux. Selon Niels Stensen, les larmes n'avaient qu'une fonction, assurer la bonne lubrification de l'œil. Dans son ouvrage Ad Winger Ott, qui a publié Why Only Humans Weep, il identifie 8 théories concurrentes, dont certaines parfaitement absurdes. L'une d'elles date des années 1960 et qui soutient que les êtres humains descendent de singes aquatiques et que les larmes seraient un vestige d'une époque où elles aidaient nos ancêtres à vivre dans l'eau salée, en 1965. D'autres ont la vie dure, malgré l'absence de preuves pour les étayer, comme cette idée rendue célèbre par William Frey en 1985, pleurer permettrait d'évacuer les toxines contenues dans le sang, particulièrement abondantes en période de stress. Les preuves s'accumulent en faveur de nouvelles hypothèses plus convaincantes. L'une d'elles soutient que les larmes suscitent le lien social et le contact humain. Dès notre plus jeune âge, nous pleurerions enfin afin d'instaurer un contact avec les autres. Pleurer signale à vous-même, comme aux autres, que ça ne va pas du tout et que vous n'arrivez momentanément pas à faire face, explique Jonathan Rothenberg, chercheur spécialiste des émotions à l'Université de Floride du Sud. De nouvelles recherches révèlent également que l'on pleure dans le but de provoquer chez les autres une réaction que la détresse seule ne suffit pas à susciter. Dans une étude publiée en février 2016, des chercheurs ont découvert que les larmes engendrent la compassion. Après avoir présenté la photo d'une personne en larmes à des sujets, ceux-ci se sont déclarés généralement plus en phase avec elle que lorsqu'elle leur était montrée sans larmes sur une photo retouchée. Des scientifiques ont découvert que la composition chimique des larmes émotionnelles était différente de celle des larmes que l'on verse en coupant des oignons. Elle contiendrait en effet davantage de protéines. On a un expert en protéines. Hein?
Voilà.
Une des hypothèses avancées est que ces différences augmenteraient leur viscosité, elles adhéreraient mieux à la peau, couleraient plus lentement et seraient plus facilement visibles par les autres. Les larmes signalent notre vulnérabilité à nos semblables, une dimension essentielle aux rapports humains. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on voit une personne émue que lorsqu'on éprouve soi-même cette émotion, explique Michael Trimble, spécialiste en neurologie au University College à Londres. À un moment précis de l'évolution, des larmes ont dû déclencher l'empathie et la compassion chez l'autre. Une théorie moins réconfortante met en avant le rôle d'outil de manipulation des larmes. Certains chercheurs estiment que si les bébés en usent pour obtenir ce qu'ils veulent, il en va de même pour les adultes, qu'ils agissent consciemment, sciemment ou non. C'est une chose que l'on apprend vite. Pleurer neutralise la colère de l'autre de manière très efficace, explique Jonathan Rothenberg. Pour lui, les larmes sont indissociables des querelles d'amoureux, notamment lorsque l'on éprouve de la culpabilité et qu'on cherche le pardon de l'autre. Pour Noam Sobel, qui est professeur en neurobiologie en Israël, les larmes pourraient réduire l'agressivité chez les hommes tout comme chez les femmes. Avec son équipe, il examine actuellement les quelques 160 molécules présentes dans les larmes afin de déterminer si l'une d'elles serait à l'origine de ce phénomène. Quel enseignement tirer de tout cela? C'est une question sur laquelle les chercheurs se penchent aujourd'hui. Michael Trimble affirme « Nous ignorons tout des personnes qui ne pleurent pas. Si les larmes sont à ce point essentielles pour tisser des liens, les gens qui ne pleurent jamais seraient-ils moins sociables? » C'est la conclusion tirée d'une recherche préliminaire effectuée par Cord Beneke, psychologue clinicien et professeur à l'Université de Kassel en Allemagne. Il a mené des entretiens avec 120 sujets afin de déterminer si ceux qui ne pleurent pas sont différents des autres. Les résultats l'ont confirmé. Ils ont tendance à être plus distants et se décrivent comme moins liés socialement, explique-t-il. En outre, les personnes qui ne versaient pas de larmes étaient davantage en proie à des sentiments négatifs, comme la rage, la colère et le dégoût, comparativement à celles qui pleuraient. Il est bien sûr indispensable d'approfondir les recherches sur ces différences, et Michael Trimble dirige actuellement la première étude scientifique sur cette question. Si pleurer semble bénéfique pour nos relations interpersonnelles, Ne pas le faire ne doit pas être considéré comme une tare. Pas encore. L'analyse, l'étude est seulement préliminaire. Il n'existe pratiquement aucun élément démontrant que cela aurait des effets positifs sur la santé. Et pourtant, pour Jonathan Rothenberg, un mythe perdure selon lequel cela permettrait de se désintoxiquer physiquement et émotionnellement, un peu comme lors d'une séance d'entraînement. L'examen d'articles publié pendant 140 ans dans les médias portant sur le thème des larmes a révélé que pour 94% des personnes interrogées, pleurer était bon pour le corps et l'esprit, et que retenir ses larmes était mauvais. C'est faux, tranche Jonathan Rothenberg. L'idée que l'on ressent toujours un soulagement après avoir pleuré est tout aussi exagérée. Lorsque les chercheurs présentent un film triste à des volontaires dans un laboratoire et mesurent leur état émotionnel à la fin de la projection, ceux qui ont pleuré sont de plus mauvaise humeur que ceux qui n'ont pas versé une larme. Mais d'autres personnes renforcent la théorie selon laquelle pleurer un bon coup permettrait de libérer les émotions refoulées. Il semble que l'un des facteurs essentiels soit de laisser suffisamment de temps pour que les larmes agissent, afin d'en ressentir les effets positifs et de se sentir libéré. La recherche actuelle sur les larmes en est encore à ses balbutiements. Cependant, le mystère qu'elle recèle incite le professeur Winger Hout et sa petite équipe de chercheurs à poursuivre leurs efforts. Les dernières découvertes tendent à montrer qu'elles jouent un rôle bien plus important que ce que les scientifiques croyaient jusqu'à présent. Les larmes sont d'une grande importance pour la nature humaine, explique le professeur. Nous pleurons parce que nous avons besoin des autres. Il revient toujours à cette même idée. Mais on en est toujours au premier balbutiement quant aux recherches. Pourquoi pleure-t-on? On ne le sait pas vraiment.
Il y a une autre raison pourquoi on pleure.
Oui.
Dans les derniers jours, parce qu'il faisait très froid.
Oui, c'est vrai que ça, oui, ça stimule pas mal. Hein.
Ça stimule le froid quand même. Aujourd'hui, c'est quand même assez doux. On vous revient après la pause musicale. Alors, de retour, la puissance des protéines. En fait, c'est pas celui-là que je voulais vous lire. En fait, je voulais vous parler plus de la tension artérielle, parce que je vous en ai déjà parlé, des protéines. Donc, si je vous parlais de tension, en fait, c'est encore une fois un article que j'ai trouvé dans le magazine Costco, dans la section santé. Et on dit prendre soin de soi à la maison en surveillant sa tension artérielle. C'est un papier de Jeanne Langille. Lorsqu'il a appris qu'il souffrait d'hypertension dans sa mi-quarantaine, Tommy Petrogiannis a trouvé la nouvelle très préoccupante. Il dit « Un homme averti en vaut deux ». Et sa femme a cependant dit « Bah, tu peux quand même la contrôler ». Le Montréalais, qui a maintenant 56 ans, n'est pas le seul dans sa situation. Environ 20% des Canadiens font de l'hypertension, que l'on appelle aussi le tueur silencieux, parce qu'elle est asymptomatique et ne s'accompagne d'aucun signe avant-coureur. La tension artérielle est la force exercée par le sang qui circule. Si elle est trop élevée, elle peut endommager les vaisseaux sanguins. Non traitée, l'hypertension accroît le risque d'AVC, d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, de démence même, de maladie rénale, de troubles oculaires et de dysfonctionnement érectile. L'hypertension indique un durcissement ou un épaississement des artères ou un excès de plaques. Elle est souvent héréditaire et le risque d'en faire augmente avec l'âge. Monsieur dit « Mes parents et ma sœur font aussi de l'hypertension. Savoir que c'est dans mes gènes me pousse tout à faire pour réduire ma pression. » Écoutez bien les chiffres. La tension se mesure par la tension systolique, le chiffre du haut, soit la force à laquelle le cœur se contracte et expulse le sang. Et la tension diastolique, le chiffre bas, c'est la force à laquelle le cœur se détend pour se gonfler de sang. Les deux chiffres sont importants. En outre, une tension un peu plus haute est acceptable chez une personne en santé, mais pas chez un diabétique. La Fondation définit trois catégories de risques selon la mesure de la tension. Un risque faible correspond à une tension de 120 sur 80. Un risque moyen à une tension de 121 à 139 sur 80 ou 89. Et un risque élevé à une tension supérieure à 140 sur 90. Pour une personne diabétique, elle doit être inférieure à 130 sur 80. Pour les personnes de plus de 80 ans, la pression systolique devrait être inférieure à 150. La surveillance maintenant, avec une surveillance adéquate à la maison, on peut bien déceler et prendre en charge l'hypertension avec son médecin, dit le docteur Raj Pawal, médecin et professeur de médecine à l'Université de l'Alberta, porte-parole d'Hypertension Canada et co-auteur des lignes directrices de l'organisme. Il dit que la tension fluctue. Plus qu'une mesure prise chez le médecin, c'est une moyenne au fil du temps. Le docteur Padwall conseille de faire une évaluation sur 7 jours en la vérifiant 2 fois le matin et 2 fois le soir et de ne tenir compte que de la moyenne des 6 derniers jours. Et pour plus d'exactitude, il faut se reposer 5 minutes avant de prendre sa pression, la prendre en position assise et noter le résultat pour le donner au médecin. Ce test est recommandé tous les 3 mois ou plus, si on a le diabète. L'oubli fréquent de prendre ces médicaments exige une vérification quotidienne. M. Petrogiannis a un horaire chargé et voyage beaucoup. Il a 3 tensiomètres. Un à la maison, un au travail et un dans sa valise. Sa tension descendait trop bas le soir. Son médecin a pu utiliser ses résultats pour ajuster la dose de ses médicaments et l'heure de leur administration. « J'ai aussi modifié mon mode de vie, dit-il. Ma tension est maintenant maîtrisée. » Alors, c'est un papier de Jeanne Langille et je vais vous donner quelques conseils si les gens font de la tension artérielle. On dit que, naturellement, prendre les médicaments prescrits par leur médecin, consommer moins de sel, ça aide beaucoup, lisez les étiquettes et évitez les aliments riches en sodium, manger sainement, privilégiez les légumes, fruits, produits laitiers faibles en gras, les grains entiers, les viandes maigres, le poisson, légumineuses et noix, limitez sa consommation d'alcool à 1 ou 2 verres par jour ou moins, cessez de fumer, très important. Chaque cigarette, dit-on, augmente la tension et faire au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Et quand on dit modéré, ça signifie transpirer un peu et noter une légère accélération de la transpiration. C'est ce qu'on dit pour baisser cette tension artérielle. Alors voilà, on parle de tension.
Alors, quelques brèves. Une brève qui est une lueur d'espoir. En effet, au Québec, environ 150 000 personnes souffrent d'Alzheimer et ce nombre pourrait doubler d'ici une 20aine d'années. D'où l'importance de la nouvelle molécule mise au point par Marc-André Bédard, professeur au département de psychologie de l'UQAM et son équipe de l'Institut neurologique de Montréal. Au terme de 15 ans de recherche, ils ont réussi à créer un biomarqueur qui permet de détecter précocement la maladie et d'en mesurer le degré d'évolution. C'est une première à l'échelle mondiale. Selon des simulations statistiques, ce dépistage précoce pourrait éventuellement éliminer plus de 50% des cas.
Merci.
Alors j'en ai une encore peut-être, sachant que 2/3 des Canadiens de plus de 65 ans se font prescrire 5 ordonnances différentes et que 25% d'entre eux doivent prendre 10 médicaments par jour, pas étonnant que la gestion de tous ces remèdes devienne un vrai casse-tête. C'est dans le but de faciliter le renouvellement des ordonnances que le service Espace Pharma a été créé. En plus de donner accès à notre propre profil pharmacologique en ligne, il permet aussi de consulter et gérer les dossiers des autres membres de la famille. On y trouve également la liste de toutes les ordonnances délivrées par la pharmacie qu'on peut ensuite imprimer avant de se rendre à un rendez-vous médical. Alors donc c'est espacepharmatelus.com pour avoir ce service-là.
Merci beaucoup Franceline. Alors merci à vous deux hein, en cette belle émission du lundi. Et je vous rappelle que cette émission est du lundi au vendredi, toujours à 9h le matin avec différents animateurs et collaborateurs et en rediffusion à tous les jours. Afin de connaître l'horaire, ben, allez sur le site internet, c'est canalm.vue avec un S et voix.com. Alors, on remercie Jean-Sébastien de l'autre côté de la vitre pour cette mise en onde. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve lundi prochain.
Oui, à la semaine prochaine.
Au revoir.